Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Une élection qui n'en est pas une aujourd'hui en Russie. Comment et pourquoi Vladimir Poutine s'emploie à créer l'illusion de sa victoire? Nous en parlons avec la politologue Marie Mindras. De l'iridium dans le sous-sol haïtien aux origines de la crise actuelle, l'enquête de la cellule InfoVérif de RFI démontre que le scénario ne tient pas. Grégory Genevrier viendra nous dire pourquoi. Enfin, un nouveau produit miracle pour éclaircir la peau. Non seulement c'est une arnaque, mais c'est aussi dangereux pour la santé, nous dira Kaofi Souïd, AFP Factuel à Abidjan. Mais on commence avec notre invité. Bonjour Marie Mindras.
Bonjour.
Vous êtes politologue au CNRS et au CERI et professeur à Sciences Po. Vous écrivez sur la Russie, l'Ukraine, l'Europe, les élections, la démocratie. Votre tout dernier ouvrage s'intitule « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin » chez Kalman Levy. Alors des élections se tiennent aujourd'hui même et jusqu'à ce dimanche 17, mais doit-on plutôt parler d'un simulacre d'élection?
Le plus simple, il me semble, est de dire que ce n'est pas une élection. Il y a la démocratie et il y a l'absence de démocratie. Il y a le suffrage universel direct et il y a l'absence de suffrage universel direct, secret, libre, pluraliste. Donc ceci n'est pas une élection. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, à ce stade très avancé de la dictature militaire, le Kremlin décide de maintenir l'apparence d'un suffrage universel, alors que en réalité, ce n'est absolument pas un vote libre et pluraliste. Et puis enfin, se poser la question de savoir aussi pourquoi est-ce que nous, on commente un exercice qui n'est pas une élection.
Oui, mais alors les gens vont se rendre aux urnes, il va y avoir des bureaux de vote. Donc expliquez-nous vraiment, fondamentalement, pourquoi vous n'appelez pas ça une élection.
La première chose est d'un point de vue purement pratique. Il semble que plus d'un tiers des suffrages, entre guillemets, se feront par le vote électronique. Or, le vote électronique, c'est toute la machine de la Commission électorale centrale qui travaille pour le Kremlin, exclusivement pour le Kremlin. Et donc là, personne n'aura le moindre accès à cette partie des suffrages. Ensuite, il y a des urnes qui circulent pour aller chez les gens malades, handicapés, ce qu'on appelle les urnes mobiles. Il y a aussi une possibilité de voter en avance, donc pas par vote électronique. Vous voyez déjà la quantité de brèches dans le processus qui font que, de toute façon, tout est complètement manipulé.
C'est-à-dire qu'on sait d'avance que Vladimir Poutine se présentera tout de même comme le vainqueur d'une élection. Mais simplement, ce qui est très important aussi, c'est les candidatures dans une élection.
Il n'y a pas de candidat, justement. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'élection. Moi, je trouve que le terme le plus clair, si on veut le définir, c'est un plébiscite fabriqué. Poutine s'est fait plébisciter plusieurs fois dans des conditions de non-concurrence. Il n'y a pas de candidat. Les trois personnes qui sont face à lui sont des potiches. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'opposition systémique, ce qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais c'est-à-dire les représentants de trois partis, entre guillemets, qui siège à la Douma. Mais la Douma n'est plus un parlement depuis longtemps, puisqu'il n'y a pas non plus d'élections législatives honnêtes, pluralistes et non manipulées. Donc, la meilleure preuve de l'illégalité totale de ce scrutin, entre guillemets, c'est que les autorités russes ouvrent des bureaux de vote dans des territoires occupés, hors de la Fédération de Russie,
notamment en Ukraine,
en Géorgie. Et cela devrait nous suffire amplement dans nos pays démocratiques pour dire que ce n'est pas une élection et que c'est un crime, en fait, d'obliger des Ukrainiens qui sont en zone occupée de rendre leurs documents d'identité ukrainiens, de prendre des documents d'identité de la Fédération de Russie. Et sous contrôle des polices et de l'armée sur place, sont obligés d'aller mettre un bulletin pour Vladimir Poutine. La Russie est en guerre et la vraie question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi le Kremlin a besoin d'afficher, après cet exercice, d'afficher une victoire écrasante du chef, alors que tout le monde saura très bien, même les Russes qui auront mis un suffrage, un bulletin pour Poutine dans une urne, forcé ou pas forcé de le faire, il n'y en a aucun qui penseront que le pourcentage qu'obtiendra Poutine, et qui à mon avis est déjà décidé, ils ne penseront que ce pourcentage est honnête.
Alors justement, parce que ce qu'on a constaté, il y a eu les Kremlin Leaks il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire des fuites émanant de l'administration présidentielle qui nous ont montré qu'il y a eu énormément de financements réservés à la propagande et à faire en sorte que justement le résultat de ce scrutin conforte Vladimir Poutine. Comment expliquer que Vladimir Poutine, qui a éliminé tout ce qui pouvait lui faire obstacle, ait besoin comme ça d'investir dans une machine pour obtenir un résultat qui lui soit favorable?
C'est une question très importante. Ils ne font pas cette propagande pour faire gonfler le oui à Poutine. Bien sûr que non, puisque tout est manipulé et ils savent déjà quel pourcentage on va donner à Poutine.
Alors pourquoi?
Mais pour faire croire que c'est la guide propre qui a fait que le peuple s'est levé de nouveau pour applaudir son chef. C'est comme les sondages qu'on nous présente depuis des années qui ne peuvent pas être des sondages d'opinion.
Pourquoi?
Ou des intentions. Parce qu'on est dans une dictature.
Les gens n'ont pas la liberté de s'exprimer.
Mais ils n'ont même plus la liberté de penser, puisqu'on leur dit que s'ils pensent que c'est une guerre et qu'ils le disent, ils risquent 7 ans de camp. Donc soyons sérieux, il n'y a plus d'électeurs en Russie, il n'y a plus de citoyens, c'est très clair. Beaucoup de personnes, dont les millions de personnes qui sont otages de la télévision, qui est mensongère et brutale dans ces images, ils n'ont plus la capacité d'avoir un libre arbitre, ni de choisir.
Dans votre livre « La guerre permanente », vous mentionnez tous ces mouvements qui existent et que l'on a vu se manifester le jour des funérailles de l'opposant Navalny. Est-ce que, à l'occasion de ces 3 jours de vote, va y avoir quelque chose à surveiller de ce côté-là? Est-ce que ces milieux de résistance à l'autoritarisme vont pouvoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre?
Je vous remercie d'employer le terme de résistance. Je crois que c'est celui qui, depuis 2 ans, doit être employé. C'est le terme le plus juste pour qualifier les millions de Russes qui sont en résistance contre la dictature et contre le fait d'envoyer des hommes mourir pour rien par dizaines de milliers en Ukraine. Donc ce n'est pas une opposition. Dans une dictature, il n'y a pas d'institution politique qui s'appelle l'opposition. Il n'y a pas de parti d'opposition. Tout cela est terminé depuis des années. Donc la résistance, elle est à la fois une résistance passive, et ça c'est évidemment très difficile de quantifier, de suivre, mais on peut suivre les millions de messages mis par des Russes sur les sites de la résistance, que ce soit Navalny Live, les sites de l'équipe de Navalny, mais de beaucoup d'autres mouvements. Et puis on a la résistance active à l'intérieur de la Fédération de Russie, ce sont les comités anti-guerre, les comités de mères et d'épouses de soldats, encore des mouvements politiques qui, au plan local, sont véritablement en résistance, tentent d'informer la population. Et beaucoup plus important encore, c'est de savoir que la résistance à l'intérieur de la Fédération de Russie est en lien étroit avec la résistance en dehors de la Russie, c'est-à-dire au sein de toutes les communautés russes qui sont exilées, parfois depuis des années.
Mais même là, ils ne sont pas en sécurité, ces opposants à Vladimir Poutine. On l'a vu ce mercredi, donc avec l'attaque contre l'un des principaux bras droits de Navalny, qui lui est en exil en
Lituanie. Tout à fait, Léonid Volkov, que je connais bien, qui donc a été attaqué. Il était dans sa voiture. Avec un marteau, ils ont cassé sa vitre de voiture et puis ensuite, ils l'ont cogné, tabassé avec le marteau. Voilà, il a le bras cassé et il a fait un petit message à tous ceux qui le suivent. Ils sont très, très nombreux donc sur les différents réseaux sociaux et il va bien, mais évidemment, il est quand même très choqué. Il y a eu d'autres tabassages et même tentatives d'assassinat contre des résistants russes à l'étranger. C'est une méthode de ce régime qui est un régime violent et voyou, qui ne respecte absolument plus rien. Et ils essayent donc de faire peur, de sidérer, d'empêcher. Je pense que le résultat va être exactement inverse. C'est-à-dire que, à faire comme pour les funérailles d'Alexei Navalny, Il y a un moment où les personnes, et on l'a vu aux funérailles des personnes même toutes simples, des familles, des tout jeunes, des vieilles personnes, tout le monde voulait absolument aller rendre hommage aux héros de la résistance et défier le pouvoir, très pacifiquement, hein, mais le défier en disant en fait, on n'a pas peur. On sait qui vous êtes et on n'a pas peur.
Alors en fait, ceux qui ont été inquiétés par le régime, on parle de quelques 500 opposants en prison aujourd'hui.
Ce serait peut-être même plutôt près de 700. Pas opposants, prisonniers politiques. Hein, c'est un terme qui est bien défini dans le droit. Environ 700 prisonniers politiques. Et il faut suivre de très près la situation de deux grands résistants, Vladimir Karamurza et Ilya Yachin. Car ce n'est qu'avec une défaite militaire de la Russie que ces prisonniers politiques ont une chance de survivre.
L'enjeu finalement de ce que vous appelez donc un plébiscite fabriqué, quel est-il ? Il est à destination davantage de l'intérieur ou de l'extérieur ?
Le plébiscite fabriqué, c'est la dictature qui veut empêcher qu'on la nomme dictature. Donc c'est une protection. Deuxièmement, c'est un instrument du chef, Poutine, pour dissuader des membres de son clan de le mettre de côté ou de prendre sa place. C'est-à-dire de montrer, vous voyez, notre système, il tient parce que c'est moi. Et enfin, c'est une forme de violence politique, puisque le message auprès de plus de 100 millions d'adultes qui normalement auraient le droit de vote, c'est de leur montrer qu'ils ne comptent plus pour rien, que la dictature peut décider toute seule. Et donc, c'est un message de mépris pour la population adulte en Russie, en lui disant, il n'y a plus qu'à vous soumettre, il n'y a pas d'autre option.
Merci beaucoup Marie Mindras. On rappelle que vous venez de publier « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin » chez Kalman Levy, collection « Liberté de l'esprit ». Cap sur Haïti à présent, 4 jours après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry. La situation politique et sécuritaire reste précaire. L'ONU prévoit un pont aérien pour faire face à la crise humanitaire. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Sur les réseaux sociaux, le contexte est propice aux infox et aux théories du complot. Certains affirment que le sous-sol haïtien regorge d'iridium, un métal convoité par les puissances étrangères, et c'est ce qui serait à l'origine des troubles actuels.
Oui, des centaines d'internautes l'affirment. Les États-Unis et l'ONU entretiendraient volontairement le chaos en Haïti pour piller son sous-sol. Le métal tant convoité serait l'iridium, un dérivé du platine de couleur argentée, utilisé notamment dans l'industrie automobile, aéronautique ou spatiale. Cette rumeur mensongère repose sur un extrait d'interview d'une activiste haïtienne. Elle était interrogée par une chaîne YouTube américaine en 2017.
Haiti has an extraterrestrial material that is found nowhere else in the world. Except South Africa, and it's the purest in Haiti.
Dans cette vidéo, vue des centaines de milliers de fois, elle affirme qu'Haïti est assis sur une montagne d'iridium, qu'une tonne de ce métal vaudrait 45 milliards de dollars et que l'armée américaine et l'ONU pilleraient les réserves haïtiennes depuis 1986 et la chute de la dictature du Duvalier.
Et en fait, vous avez vérifié, le sous-sol haïtien est loin d'être riche en iridium.
C'est ce que conclut un rapport du Bureau des mines et de l'énergie haïtien daté de décembre 2022. L'un de ses auteurs que nous avons contacté insiste sur la conclusion de l'étude. Conclusion qui indique que la présence d'iridium en Haïti doit être considérée, je cite, comme une curiosité géologique. Autrement dit, la quantité découverte dans le sud du pays est si faible qu'elle rend impossible son exploitation. Ce que confirme Didier Julienne, expert du marché des métaux.
Il y a dans le sous-sol haïtien, comme dans beaucoup de parties du monde, des tas de métaux qui sont là en teneur relativement faible. Et ces teneurs faibles ne permettent pas d'exploiter ces métaux. Je fais souvent l'analogie avec l'or qui est contenu dans l'eau de mer. Il y a des tonnes et des milliers de tonnes d'or contenues dans l'eau de mer, mais les teneurs sont si faibles que c'est inexploitable. C'est tout à fait le même raisonnement que l'on peut appliquer concernant l'iridium en Haïti.
Alors, une tonne de ce métal vaut-elle vraiment 45 milliards de dollars?
Eh bien non, là encore, c'est faux. Une tonne d'iridium se vendait entre 140 et 150 millions d'euros cette semaine. En 2017, soit au moment de l'interview, la tonne était même 5 fois moins chère. Vincent Donnen, un autre expert en la matière que nous avons contacté, rappelle que la production annuelle mondiale d'iridium se compte entre 6 et 9 tonnes seulement. Un marché réduit, largement dominé par l'Afrique du Sud, qui produit à elle seule plus de 80% de l'iridium mondial, loin devant le Zimbabwe, le Canada ou la Russie.
Et ce n'est pas la première fois que des fausses informations circulent autour du sous-sol haïtien.
Non, le narratif d'un chaos organisé par des puissances étrangères pour piller les ressources minières d'Haïti revient à chaque crise. Cette interview d'une activiste haïtienne en 2017, repartagée aujourd'hui sur les réseaux sociaux depuis la démission d'Ariel Henry, en est un nouvel exemple. Cette fois-ci, c'est l'iridium qui est ciblé, mais les infox concernent aussi l'or ou encore le pétrole.
Merci Grégory Genevrier. On joue parfois avec notre santé sur les réseaux sociaux. L'enquête de l'AFP Factuel revient sur les risques sanitaires de certains produits cosmétiques et les mensonges répandus sur Internet pour tromper le consommateur. Pour en parler, nous retrouvons Kaofi Soui, journaliste à Abidjan pour le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi.
Bonsoir Sophie, bonsoir aux éditrices et auditeurs de RFI.
Les produits cosmétiques employés pour blanchir la peau constituent un danger pour la santé. C'est une réalité que tentent de masquer les vendeurs de ces produits. Et comme vous avez pu le constater, Kaofi, la désinformation se répand à ce sujet sur les réseaux sociaux. C'est une enquête AFP factuelle.
Oui Sophie, après la mode des pommades et des gels éclaircissants, place aux injections de produits cosmétiques sous-cutanés censés transformer les peaux noires en peaux plus claires, pour ne pas dire blanches, comme le précisent de nombreuses publications identifiées par AFP Factuel. Des pages Facebook proposent par exemple des ampoules et flacons injectables dont les prix varient de 25 000 à 75 000 francs CFA, donc entre 38 et 114 euros.
D'où viennent ces produits vendus notamment sur les marchés en Afrique de l'Ouest et comment sont-ils utilisés?
Ces produits sont censés venir principalement d'Europe et de l'Asie du Sud-Est. Dans le milieu du blanchiment de la peau, les produits importés sont les plus prisés. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, l'origine européenne ou asiatique des produits éclaircissants est un argument de vente. En ce qui concerne le mode d'emploi de ces produits éclaircissants, deux options s'offrent à l'acheteur. Se faire injecter directement le produit par une vendeuse qui est loin d'avoir les qualifications pour le faire, ou trouver un professionnel de la santé peu scrupuleux pour se faire injecter des produits qui sont interdits à la vente.
Alors pour les besoins de l'enquête à l'AFP Factuel, vous avez fait analyser l'un de ces produits. Quel est ce produit et que contient-il ?
Il s'agit du Glutax 7 millions GM. Le produit a été analysé par le laboratoire de toxicologie de l'hôpital Lariboisière. Les résultats sont formels. Le produit contient des vitamines, des protéines, du sucre, mais aucunement le glutathion, un antioxydant censé être présent en grande quantité dans le Glutax 7 millions GM. Les femmes qui achètent ce produit se font donc arnaquer.
Oui, non seulement le produit ne donnera pas l'effet escompté, mais en plus, il représente un danger pour les utilisateurs Kaofi.
Effectivement, ces produits vantés pour contenir de fortes doses de glutathion ou d'autres composants miracles pour blanchir la peau sont majoritairement des corticoïdes. Ces puissants anti-inflammatoires ont des effets secondaires et peuvent provoquer le diabète, l'hypertension, des infections cutanées, des acnés et des taches noirâtres difficiles à traiter. Les professionnels de la santé interrogés par AFP Factuel évoquent aussi des effets secondaires toxiques pour le foie, les reins et le système nerveux. Quant aux piqûres réalisées hors de tout cadre médical, elles exposent les utilisateurs au risque d'hépatite, d'infection ou de transmission du VIH.
Merci Kaofi Soui. En ligne d'Abidjan pour l'agence France Presse, plus d'informations encore à ce sujet sur le site internet AFP Factuel. Les dessous de l'Infox se terminent. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. En tapant InfoVérifRFI dans un moteur de recherche, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces travaux de vérification et les références qui les accompagnent. Je vous dis à la semaine prochaine et vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplin et ses invités, cet accent du monde dans un instant.